9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Nicolas Pagnol.
Bonjour.
Vous êtes le petit-fils de l'immense auteur Marcel Pagnol, monument de la culture française, sont les films avec Rému et Fernandel. Allez, entre mille, ce dialogue culte.
Tu me fends le cœur, hein?
Oh, allons, César.
Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur.
Extrait de la scène de la partie de cartes dans Marius qui date de 1931. C'est-à-dire que cette scène a 90 ans cette année et c'est toujours une référence. Elle fait partie de la trilogie Marius-César Fanny. Je vais également citer La femme du boulanger, La fille du puisatier, également les adaptations plus récentes comme Manon des Sources, Jean de Florette avec Daniel Auteuil ou Yves Montand, ou alors La gloire de mon père et tant d'autres. Nicolas Pagnol, depuis quelques années, vous faites vivre, vous faites revivre son œuvre, notamment en BD, mais pas seulement. Il y a des musées, il y a plein d'initiatives, mais là, votre actu, c'est une BD. La bande dessinée d'un film disparu de Marcel Pagnol, ça s'appelle La prière aux étoiles. Alors, il y a deux histoires à raconter. Avant qu'on raconte l'histoire créée par Marcel, il faut expliquer l'histoire du film. Il n'est pas tout à fait disparu, il a été tourné par Marcel Pagnol, et c'est Pagnol qui l'a lui-même détruit pour situer. On est en 41, et les Allemands occupent une partie de la France.
C'est tout à fait ça, et Marcel vient de... il a terminé le tournage de La fille du puisatier, 41, et donc il a ses studios, ses laboratoires, ses agences de distribution, ses cinémas, il y a une grosse affaire, et il est très amoureux d'une jeune comédienne qui s'appelle Josette D. Il va lui écrire, donc il a déjà tourné dans La fille du puisatier, il va lui écrire une trilogie, La prière aux étoiles, qu'il va décider de tourner à partir de fin 41. Et Pagnol, depuis les années 20, est très connu en Allemagne parce qu'on y a porté sur les planches Marius, Topaz ou Fanny. Et les Allemands, donc on est pendant l'occupation, hein, c'est après la débâcle, les Allemands ont créé une société de surveillance ou de production du cinéma en France qui s'appelle la Continentale, qui est dirigée d'une main de fer par un homme qui s'appelle Alfred Greven. Et Greven connaît donc très très bien Marcel et va lui proposer de travailler pour la Continentale.
Pour situer la Continentale quand même, qui a été créée par Goebbels.
Goebbels, oui, tout à fait.
C'est une boîte de société de production française avec des capitaux allemands. Et Pagnol refuse la proposition.
Alors oui, il refuse la proposition. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Il ne peut pas refuser frontalement parce que même s'il est en zone libre... s'il refuse frontalement, il sait qu'on va fermer toute son affaire. Hein. Il y a plus de 300 employés. On va fermer toutes ses agences de distribution en zone occupée ou en Algérie. Donc, il va prétexter d'être dépressif. Voilà. Dans un premier temps. Et puis Greven va lui dire, écoutez, si vous ne pouvez pas travailler pour nous, vous ne pourrez pas travailler pour vous non plus, ce que vous pouvez tout à fait comprendre.
Hein. Ouais.
Marcel va dire « Ok, très bien, j'arrête d'écrire, je ne tourne plus ». Il laisse passer quelques mois et il va commencer le tournage de La prière aux étoiles dans des conditions très très compliquées, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en pellicules. Il y a très peu de pellicules et celles qu'il trouve sont parfois de très mauvaise qualité. Les perfos sont arrachés, les émulsions sont instables, il tourne tant bien que mal. Et Greven, une fois que le film est quasi fini, revient à la charge et lui demande la distribution du film. Alors Marcel veut dire, mais le film est inexploitable, Greven veut voir le film, Marcel fait charger les plus mauvais rushs possibles avec les pellicules les plus endommagées, il a dû sortir le pauvre Greven avec un mal au cœur terrible de la projection, et il dira à Marcel, mais ça c'est pas grave, parce que nous avons de très bons laboratoires en Allemagne, et nous allons stabiliser les images, et nous allons distribuer votre film. Et sur ce, Marcel prend la décision de détruire son film et il va le détruire à coups de hache dans la cour de ses studios devant tout son personnel.
Devant tout le monde.
Ouais.
Donc il n'y a pas un film caché qui peut ressortir de Dieu sait...
Alors, comme d'habitude, on ne sait jamais avec Marcel. Parce que des années plus tard, dans les années 60, il donnera une interview où il dira qu'il a une copie qui est cachée quelque part. Et cette copie, je la cherche depuis des décennies. Je la trouverai jamais, je pense.
Il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui ont cette copie ou alors qui ont une copie, qui ne savent pas ce que c'est. Alors, il faut quand même raconter d'un mot. C'est la comédienne Josette Day qui a le rôle-titre dans La prière aux étoiles. Ça raconte quoi? C'était une trilogie à la base, mais que raconte la BD? Qu'est-ce qu'on va trouver, le lecteur?
C'est une très belle histoire d'amour et de rédemption. L'histoire d'une jeune femme, d'une jeune comédienne qui entretient une relation avec un Lyonnais, on retrouve souvent des Lyonnais chez Marcel, un Lyonnais très riche mais qu'en fait elle n'aime pas et lui rêverait de l'épouser, et jusqu'au jour où elle va rencontrer le véritable amour à la foire du trône,
En la personne d'un musicien un peu, pas un peu raté, mais qui avait des ambitions immenses, oui, de symphoniste, et qui en fait se retrouve à faire des chansons qui marchent. Mais on a l'impression que c'est un peu le double de Marcel Pagnol en quelque sorte, ce petit bonhomme.
Oui, mais Dominique aussi, le riche lyonnais est un double de Marcel Pagnol. C'est-à-dire, Pierre, le musicien, qu'as-tu fait de ton talent, voilà, ou qu'est-ce que j'ai fait de mon talent, c'est un peu l'image que Pagnol peut avoir de lui. Ouais. On peut aussi se référer au Spoons, hein, ouais. Fernandel qui rêvait, enfin dans le film, René qui rêvait d'être un grand tragédien, qui se révèle un grand acteur comique. Et ben Pagnol aussi, quand il était jeune, rêvait, il se rêvait Homère, Virgile, Shakespeare, et en fait il va se révéler un grand auteur tragicomique.
Et là on parle très sérieusement, mais il y a des punchlines absolument terribles. Par exemple, la mère qui a une grande nouvelle annoncée à sa fille et qui lui dit en préambule: je te préviens tout de suite qu'une fille n'a pas le droit de parler à sa mère sur le ton que tu vas prendre dans 2 minutes. J'adore cette punchline. Dans 2 minutes, c'est Hélène Manarino. C'est le portrait inattendu. Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de la prière aux étoiles, on parle de Marcel Pagnol, on est en compagnie de son petit-fils Nicolas Pagnol. C'est lui qui édite cette BD qui était un film et qui était inédit puisque détruit par son grand-père. Et beaucoup de choses sont inédites, notamment ce que va nous dire de vous Hélène Manarino. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est l'heure du portrait inattendu.
Bonjour Nicolas Pagnol.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, cher Coco Belœil, votre surnom petit, vous auriez
la tête qui fait.
Voulu être explorateur. C'est un peu le métier dont vous rêviez enfant. Alors, je vous propose ce matin de partir à l'aventure et d'explorer votre vie. Oui, ça commence comme ça. Indiana Jones Pagnol. Depuis l'enfance, vous aimez explorer les choses. D'ailleurs, enfant, vous aimiez mélanger les produits vaisselle en espérant trouver des potions magiques.
Ça a marché.
Ouais, je sais pas, ça a
marché. Ça n'a jamais marché.
Non, ça n'a jamais marché, mais je me demande comment vous savez ça.
Amel, c'est tout. Hélène Manarino, c'est tout. Hélène.
Fan de Goldorak et de Cobra, vous avez pourtant été bercée par l'histoire du petit chaperon rouge. Explorer la nature, voilà surtout ce qui pouvait vous amuser. Courir dans les collines, c'était l'une de vos occupations. Ramasser des myrtilles avec vos grands-parents. Ou encore pêcher. Des grands-parents qui vous ont fait vivre un super anniversaire d'ailleurs en Alsace. Nicolas Pagnol, pour prendre des forces, il vous fallait un peu de nourriture, pardon. Oui. Vous en preniez grâce au gratin de pommes de terre. C'est ce qu'il ne fallait surtout pas vous donner, c'est de la purée de pois cassés. Enfin, ne me regardez pas.
Il est complètement
ça.
Bluffé. Il le regarde, il est complètement scotché. Continuez, Hélène.
J'attends parce que là.
Continuez, Hélène.
Mais je vois dans vos yeux, c'est pour ça, c'est troublant. Enfant débrouillard, vous n'étiez jamais contre une petite séance de bricolage. Voilà, une enfance douce et paisible avec comme musique. Et oui, les Beatles. Et c'est ça que vous chantez aujourd'hui à votre petite fille de 10 mois. Alors, Nicolas Pagnol, continuons de traverser vos folles aventures et on va passer à la période où l'on explore finalement le plus de choses, l'adolescence, considérée comme intenable à l'école.
Ah oui.
Vous avez su marquer quelques profs, comme votre professeur d'histoire ou votre prof d'anglais, des professeurs qui vous qualifiaient de fumiste.
Toujours sympa de balancer ça, Hélène.
Oui. Toujours, c'est pas fini. Hein.
Du bon accueil ici, vous avez bien fait de venir.
Vois,
oui, c'est vrai, c'est hyper méchant. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. Hein.
Non, c'est pas méchant, c'est informatif.
Vous bavardiez beaucoup, vous faisiez le strict minimum et surtout, vous avez été capable de sécher les cours pour aller jouer au baby-foot. Et oui, Nicolas Pagnol, vous préfériez lire, bricoler dans l'atelier de votre père, faire du snowboard ou passer du temps avec un ami de votre papa, Claude Ratti. Un explorateur romantique aussi, surtout avec votre premier amour, Catel, que vous avez rencontré en Bretagne.
Ça y est, là, vous l'avez séché.
Et vous aviez 12 ans.
Ouais.
Eh oui. Ouais. Nicolas Pagnol, ouais. Au salon.
Catel qui vous écoute.
Je le souhaite.
Hélène, remettez-vous.
J'ai un fou rire, je ne peux rien. Nous allons faire un grand pas dans votre... Et finalement, explorer très rapidement votre vie d'aujourd'hui, marquée par cette expression « tocard » que vous dites souvent. Vos meilleurs compagnons de route, vos enfants, Victor, Aurélien et votre petite fille.
Ils sont tous traités de tocard.
Vous adorez... Philippe, n'en rajoutez pas, s'il vous plaît. Vous adorez jouer de la guitare pour qu'elle s'endorme, lui chanter aussi une chanson, papa présent, aimant. Vous continuez d'explorer de nouvelles activités, la plongée, vous adorez ça, mais aussi l'équitation. Bon, après une chute au Portugal, vous avez arrêté.
Les nouveaux horizons ne vous font pas peur. Vous rêvez de vivre à Marseille. Ce sera peut-être pour plus tard. En attendant, vous aimez aller à la Bastide Neuve, dans les Bouches-du-Rhône. Et pourtant, vous n'êtes pas doué pour les voyages. Il vous arrive de prendre un billet de train pour le mauvais jour et d'arriver le lendemain du jour de votre billet d'avion. Eh oui. Mais vous êtes plutôt doué pour voyager grâce à vos imitations. Vous faites très bien l'accent belge.
Vrai ? Allez-y.
Pour l'heure, c'est sûr. Que voulez-vous ?
Il est mort de rire. Il fait quoi l'accent belge ?
Oui, moi je ne sais pas faire l'accent belge. Et l'accent québécois aussi.
Ah. T'es, vous savez ? C'est un peu compliqué, là. Tu sais, après l'accent belge, là, ça se ressemble un peu.
Ça marche très bien. Quand vous êtes à Marseille, l'accent marseillais, évidemment. Alors, Nicolas Pagnol, explorateur sans pression, vous aimez vous détendre en lisant en ce moment Sources et sourciers ou en regardant dernièrement Will Hunting. Dans la vie, rien ne vous agace. Même perdre vos affaires, vous avez l'habitude de perdre vos lunettes, surtout. Ce que vous aimez, être entre amis, en famille, refaire le monde au restaurant, c'est pour bientôt, bon vivant, épicurien. Vous êtes un adepte de la salade de poulpe, c'est ce que vous cuisinez.
Pourquoi ça vous fait rigoler la salade de poulpe ?
Mais non, parce que je comprends qui a vendu la mèche. Non.
Votre gourmandise peut vous amener très loin. Vous êtes capable de vous lever en pleine nuit pour manger des biscuits. Eh oui.
Alors, oh, c'est moche ça.
Mais c'est vrai. Exploration terminée. Vous mettez en lumière le travail de votre grand-père, l'œuvre familiale, devenue une référence, un hommage. Finalement, mettre à l'honneur vos racines, c'est la plus belle exploration qui puisse exister.
Merci beaucoup Hélène Manarino. Vous êtes bluffée. Hein ?
Quelle conclusion. Hein, oui, je suis bluffée. Alexine, je te remercie pour tous ces petits détails.
Mais pensez surtout à Catel et pensez au produit vaisselle, c'est ça le plus important, je pense.
Oui. Non, c'est vrai que le produit vaisselle, j'en mettais vraiment de partout. Je pensais trouver, je ne sais pas, une formule magique. C'était catastrophique.
Mais au moins des bulles quand même.
Et vous, il y en avait des bulles, oui.
Et le biscuit, vous réveillez vraiment la nuit pour aller manger des biscuits ?
Non, ça c'est une légende.
Ah,
non.
D'accord. Ouais. J'aime les légendes. Merci beaucoup
Hélène
Manarino. À demain, Nicolas.
Merci.
Nicolas, vous restez avec nous. Culture Média continue. C'est Nicolas Pagnol, notre invité. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Marcel Pagnol, c'est le petit-fils... Non, pardon, en compagnie de Nicolas Pagnol, et c'est le petit-fils de Marcel Pagnol qui a signé La prière aux étoiles. Ce fut un film qui a été tourné, qui a été détruit pour qu'il échappe à l'Allemagne nazie qui occupait la France en cette année-là. On était en 42. C'est devenu une BD grâce à votre entremise, Nicolas Pagnol. Alors, on ne l'a pas dit encore, c'est une BD, ce n'est pas vous qui l'avez dessinée. Il n'y a pas moins de 4 signatures sur cet album. Un dessinateur, 2 scénaristes et même un storyboarder, la personne qui fait le storyboard. Comment vous avez travaillé avec tous ces gens-là ?
Oh ben c'est assez simple. Déjà, la collection a démarré grâce à mon amitié avec Serge Coteau. Nous avons décidé de lancer une collection BD parce qu'on est tous les deux fans. Et donc, l'intérêt, c'est d'avoir le même adaptateur ou les mêmes adaptateurs parce qu'il y a
Eric
Stoffel.
C'est un des scénaristes.
Ouais. Avec Eric Stoffel, les mêmes adaptateurs pour toute la collection pour avoir une unité de ton. Mmh. Et ensuite, en fonction des histoires, des atmosphères, des époques, on va aller choisir un dessinateur qui doit être bien sûr aussi accepté par Hervé Richesse, qui est le directeur de collection chez Grand Angle. Une fois que tout ça est mis en forme, eh bien, on a un petit débrief et à partir du moment où les angles qu'on a choisis sont respectés, moi je laisse rouler, chacun fait son boulot.
Je te dis que dans la collection, il n'y a pas moins de 17 albums, donc c'est quand même assez énorme. Je le montre à la caméra, comme ça si on voit les albums qui sont disponibles avec des titres connus, des titres pas connus. Alors il y en a évidemment qu'on connaît, La gloire de mon père, Le château de ma mère, mais alors Cigalon, j'ignorais que ça existait, comme dirait l'autre, ou Merlus.
Oui, Merlus, c'est un des premiers films de Marcel, c'est un très joli film. On peut le mettre dans la veine des choristes ou de la cage au rossignol, sur l'enfance et aussi sur le fait qu'il ne faut pas juger les gens sur leurs apparences.
Les choristes, il y a beaucoup de musique dans l'œuvre de Pagnol. Là, en l'occurrence, il y a de la musique. C'est l'histoire d'un musicien, Pierre. Il y a une petite réplique que j'aime beaucoup. Il annonce à son producteur, Pierre, qui veut quitter Paris. Là, c'est dans La prière aux étoiles. Il veut quitter Paris pour aller à la campagne, pour réfléchir. Et son producteur lui répond, ce qui m'épate, c'est que tu as l'air de croire que pour réfléchir, il faut sortir à la campagne tout seul et ne faire rien d'autre que d'exercer la profession de réfléchisseur.
Oui, on a tout Marcel.
Voilà, c'est très bien résumé. Vous êtes grand fan de musique ou pas du tout ?
Oui, j'écoute beaucoup de musique, un petit peu de tout, de la musique classique au rock, en passant par le jazz.
En ce moment, vous êtes sur quoi ?
Oula, en ce moment, je me fais un grand... Non, en ce moment, je me fais un grand retour 70s.
Ah, d'accord.
Led Zepp, ce d'accord. genre de choses-là.
Bonjour, Angèle Châtelier. Philippe. Mince, alors, je pensais qu'il allait me dire pop-rock, et comme ça, je vais dire, ah, bah dis donc, c'est tout trouvé, l'enchaînement avec Angèle Châtelier.
Merci de m'aider.
Mais non. On va parler de musique avec vous, Angèle Châtelier. Certains se souviennent du groupe Heur, et l'un des membres de ce duo, car c'était un duo, Victor Solf, dévoile son premier album, Bien à lui.
Et oui, mais d'abord, souvenez-vous, Heur, c'était ça. One dip of a cigarette, mistakes you don't regret. All I need is 5 minutes, like a drug side effect, like a ride on a rocket, the love you don't expect. All I need is 5 minutes. Alors, à son apogée, le groupe Heur connaît un destin tragique en 2017 lorsque l'un des membres du duo, Simon Carpentier, décède à l'âge de 27 ans d'un cancer. Victor Solf, son ami mais aussi autre moitié de Heur, tente tant bien que mal de continuer à faire honneur à leur musique en se produisant une dernière fois au Zénith en 2019 par exemple. Mais alors aujourd'hui, Victor Solf dévoile son premier album à lui, en solo, sous son nom, appelé Still There's Hope, il y a encore de l'espoir. Quiet, my voice and the flowers went missing. Couple of notes out of love fill up the void left the time I went missing. I'm such a cliche. I heard the rumors, but still I went. Such a cliche. I went away just to come back and say, heaven isn't what they told. Heaven isn't what they sold. Happiness ain't what they told. And happiness ain't what they sold. Cet album de Victor Solf, c'est de la musique soul, pop, parfois dansante, dont le fil rouge est l'espoir, oui, notamment face au deuil, celui qu'il a eu à faire de son ami et partenaire de musique.
Et alors ce deuil, précisément, il l'évoque dans l'album ?
Oui, notamment dans une chanson appelée Fight for Love, dans laquelle il évoque le temps qu'il lui a fallu pour accepter ce qu'il s'était passé. On l'écoute.
J'ai mis beaucoup de temps à accepter son absence. J'ai été dans le déni pendant longtemps, j'ai lutté même. Et en plus, c'était assez facile pour moi parce que je continuais Heur, donc je faisais beaucoup de tournées, je jouais nos titres. Et avec cet album, vraiment, j'ai accepté. Et il y a un titre d'ailleurs de l'album qui s'appelle Fight for Love. I hear it coming, keep it calm, I know the stakes. I promise me to see through, you can relate. I just a smile on every song up to this day. J'évoque le déni que j'avais de l'absence en disant, voilà, mais en réalité, mes pleurs ne te ramèneront pas, ma haine ne te ramènera pas, mes peurs, même de ma propre mort, ne te ramèneront pas, même notre musique avec Heur ne te ramènera pas. Donc c'est m'obliger à faire ce constat que rien ne pourrait le ramener, mais, et là c'est ce qui conclut la chanson, je continuerai à me battre pour être heureux et pour aimer, m'aimer les autres.
Victor Solf a produit cet album seul depuis chez lui, en jeune papa confiné, et alors que les clubs sont fermés depuis 13 mois, et oui 13 mois, il voulait un album avec lequel on peut aussi danser. Alors c'est loin d'être un album électro, mais danser c'est aussi se laisser aller, et cet album c'est son exutoire, comme l'est finalement un peu la danse.
Je pense que c'est un moyen comme la musique de pouvoir externaliser beaucoup de choses quoi, sous forme d'exutoire. Comme ça que je le vis. En plus, moi qui ne suis pas du tout danseur professionnel, quand je danse, j'ai vraiment cette sensation simplement de me laisser aller, de sortir des choses de moi. Ça va être incroyable le jour où on pourra se retrouver tous dans des clubs, dans des concerts et danser. Et c'est aussi quelque chose qui, moi, me donne de l'espoir et qu'un jour ça puisse reprendre.
Angèle, vous parliez de la danse comme exutoire, pandémie, confinement. Qu'est-ce qui lui a permis de faire un album optimiste, surtout en ce moment ?
Bon courage, ouais. Et bien lui, c'est l'amour, celui de son fils, de sa femme. Et plus généralement, lui, il a de la chance, l'espoir, il le porte en lui. Et c'est ce qu'il m'a confié.
Avoir de l'espoir, rester humaniste, c'est une démarche qui n'est vraiment pas forcément évidente en ce moment. Et moi-même, je me suis posé cette question tout au long de l'album, dans l'écriture des textes, est-ce que j'ai encore de l'espoir ? Et ça passe par plein de choses. L'altruisme, je pense, aide beaucoup. Accorder du temps aux autres, de l'énergie aux autres, c'est ce qui nous nourrit. On est des êtres profondément sociable. Donc voilà, c'est un des thèmes dont je parle aussi dans l'album. Et aussi réussir à profiter du temps présent. Ne pas toujours être projeté dans l'avenir ou au contraire un peu bloqué par son passé. Can you feel me?
I'm lying on the ground. Still There's Hope, il y a toujours encore de l'espoir. L'album de Victor Solch est donc d'ores et déjà disponible.
Vous avez peine à y croire, Angèle. Nicolas Pagnol, ça vous a intéressé? Ça vous plaît cette musique?
Ah oui, j'aime bien. Je trouve qu'il y a beaucoup de douceur.
Oui, c'est vrai.
Une sorte de renoncement, d'acceptation, donc qui en fait écho à son discours sur son ami. Non, j'aime beaucoup.
Et aussi un bon son, si je puis me permettre.
Et un bon son.
Ça sonne très très bien. On a des très bons casques ici, une très bonne écoute et le son est vraiment très bon. Qu'est-ce qu'on écoute? On va l'entendre en entier, un titre en entier.
En entier, exactement. Voici donc Victor Solch avec son titre How Did We.
Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel.
Happening, getting rid of all I did, all looking at the fall, we were that high. I pictured our lives happy, and it went like this. I'm you. Stop our fall, and now we're out here trapped and kicking the dark, staring down your eyes right now. I picture our lives happy, it doesn't end like this.
How did we? C'était Victor Solch sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en compagnie de Nicolas Pagnol, c'est lui qui est en charge de l'œuvre de son grand-père, Marcel Pagnol. On va parler de cinéma maintenant avec vous, Marjorie Adelson, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Plus précisément, évidemment, les salles sont fermées, elles vont bientôt réouvrir, mais en attendant, vous nous parlez de VOD et vous démarrez par un film d'animation qui devait justement sortir en salle. On le retrouve sur Netflix, ça s'appelle Les Mitchell contre les machines.
Oui, que se passe-t-il quand l'intelligence artificielle n'obéit plus aux humains? Alors c'est un sujet assez classique, hein, des films de science-fiction, mais cette fois c'est raconté via un film familial déjanté, car à force d'être maltraité par les humains, les smartphones et autres objets connectés vont se rebeller et capturer tous les terriens.
Les derniers humains doivent être par ici, quelque part.
Est-ce un break orange de 1993?
Alors lançons l'opération.
Voilà, mais une famille en fait va réussir à leur échapper, les Mitchell. Alors ils sont très atypiques. Cathy, la fille, fait des vidéos bizarres avec son chien bigleux. Le petit frère se prend pour un dinosaure. Le père est un expert en survie. Et la mère est obsédée par les voisins. Bref, ils n'ont pas vraiment un profil de sauveur, mais ils vont se lancer dans cette aventure délirante. L'objectif, arrêter les robots et sauver les humains à leur manière.
Tout le monde a pris son tournevis personnalisé numéro 3, tête carrée, antidérapant.
Comment oublier mon cadeau d'anniversaire de mariage?
Ou le mien pour mes 16 ans?
Ou celui que la petite souris a mis sous mon oreiller?
Les Mitchell à l'attaque!
Voilà, c'est un film qui est une très bonne surprise en fait. L'histoire est complètement barrée, mais en même temps très maîtrisée, avec un message. Il faut cultiver non pas son jardin, comme disait Voltaire, mais sa bizarrerie. En plus, ce qui est original, c'est qu'on n'est pas dans un énième film d'animation, mais plutôt dans une relecture hilarante des films sur la fin du monde.
On est ensemble, on est en sécurité.
Oh, mon chien pourrait être notre chien de garde.
Fiston, j'aime ce chien, tu aimes ce chien, on aime tous ce chien. Mais tu vas devoir te préparer à manger ce chien.
Non.
Voilà,
c'est
horrible. C'est comme ça.
C'est un film familial.
Familial, mais voilà, il y a plein de petits clins d'œil comme ça.
Ouais, les clins d'œil, ils vont être traumatisés.
Et puis l'autre force du film, c'est qu'il interroge avec humour notre rapport aux nouvelles technologies, mais aussi à l'obsolescence programmée. Exemple avec ce smartphone qui s'énerve contre son ancien maître.
Peut-être que le méchant, c'est celui qui m'a traité comme ça.
Appuie, appuie, fais glisser, appuie, fais glisser, appuie, appuie. Des zoom, zoom, réduit, zoom. Apporte-moi une pizza, joue-moi du Taylor Swift, laisse-le tomber dans les toilettes.
Voilà, donc c'est un film intelligent, drôle, servi par un très beau dessin et c'est à voir en famille sur Netflix.
Alors le deuxième film dont vous nous parlez, Marjorie, est disponible sur Salto. Il s'appelle Louise Michel, avec un tiret entre Louise et Michel, pas comme La Résistante.
Oui, c'est l'un des premiers films du duo Kerven Delépine de Groland, à qui l'on doit Saint Amour ou plus récemment Effacer l'historique. Alors comme d'habitude avec eux, c'est une histoire assez cocasse. Louise, c'est Yolande Moreau, est ouvrière dans une usine de textile. Un beau matin, elle découvre avec ses collègues que l'usine a été vidée dans la nuit. Les voilà donc toutes au chômage après 20 ans de bons et loyaux services. Mais pas question de se laisser faire. Elles vont donc réunir leurs maigres indemnités pour tuer le patron. C'est Louise qui est chargée de recruter le tueur à gages.
Il a fait plein de trucs. Hein. Le cochon Chine, la Corée du Sud, Kennedy, celui. Enfin bon, faut pas trop le dire.
Et pour l'argent?
Ah, car maintenant, le reste à la livraison.
C'est correct.
C'est correct.
Ouais, c'est correct. Ouais.
J'avais oublié Kennedy, c'est lui. Tellement génial.
Ouais, donc ce tueur, c'est Michel, d'où le titre. Alors vous avez compris, il n'est pas du tout tueur à gages. En fait, il est vigile dans un camping. Mais qu'importe, il va très bien s'entendre avec Louise. Et à deux, ils vont se lancer dans un road trip jubilatoire à la recherche du fameux patron. Ça donne un western social complètement loufoque et surtout anticapitaliste. Une sorte de Bonnie and Clyde sauce Groland.
Et sur la route, évidemment, ils vont faire des rencontres.
Et oui, et c'est là que le film vraiment tire tout son mordant. Car Louise et Michel vont croiser des personnages abîmé par la société, un gogo dancer déprimé, un Benoît Poulvord qui rejoue les attentats du 11 septembre sur sa corde à linge, le tout sans oublier de taper sur leur cible préférée, les bobos. Exemple avec Mathieu Kassovitz qui joue le patron d'une ferme ultra écolo.
Faisons le pain à la maison, le vin est du vin au chocolat biologique, aussi fait à la maison. Le café, c'est du café commerce équitable, à volonté. Petite gélule d'aspartame, mais biologique. Nous nous chauffons avec nos propres excréments. C'est un système qui nous permet d'être en autarcie complète.
Voilà, donc c'est
tellement
un film.
Ça. On dirait presque un reportage, on dirait même pas un film.
Exactement, voilà, c'est un film drôle, très réel, politiquement incorrect, et c'est à voir sur Salto.
Voilà, on était dans Envoyé spécial. Nicolas Pagnol, un de ces deux films vous tente?
Oui, oui, bah le deuxième, je le connais, mais le premier me tente énormément. J'adore l'animation, un peu irrévérencieuse.
Ouais, donc, et ça. En plus, au niveau des dessins, c'est assez original aussi. On n'est pas du tout dans du Pixar, c'est vraiment bien.
Comme ça, vous pourrez manger votre chien. Vous avez monté en 2004, Nicolas Pagnol, la compagnie Méditerranée de films. Au départ, c'était pour éditer la collection de DVD de Marcel Pagnol. Quels autres projets d'adaptation arrivent?
Alors, la compagnie Méditerranée de films existe depuis 1944. C'est la société de production de mon grand-père.
Vous avez raison.
Qu'on m'a confié. Avec beaucoup de courage d'ailleurs.
Ouais.
Quels sont mes autres projets? Alors là, je suis en train de réhabiliter.
Mais là, il y a un baratier qui arrive.
Ah oui, il y a le Christophe Baratier.
Voilà. Alors,
qui
racontez
arrive
ça, on est en train de parler de cinéma. Alors racontez, qu'est-ce que ça va être?
Alors, c'est l'adaptation cinématographique du troisième volet des Souvenirs d'enfance, Le Temps des Secrets, par Christophe Baratier, avec Guillaume de Tonquédec, De Maison,
Mélanie
Douté. J'ai vu le film. Ouais. J'ai la chance d'avoir vu le film. Il est splendide. Creed. C'est magnifique, on est vraiment dans la veine des films d'Yves Robert, La gloire de mon père, Le château de ma mère. Et il sortira, si je ne m'abuse, en mars 2022.
2022. Et d'autres projets de films en route ?
Oui, un grand biopic d'animation sur la vie de Marcel Pagnol, réalisé et écrit par Sylvain Chomet, à qui on doit Les triplettes de Belleville, Illusionniste. Voilà. Et un projet aussi de série qui... sur les pestiférés.
Encore une œuvre de Pagnol.
Encore une œuvre de Pagnol, l'histoire de la peste à Marseille. Alors je crois qu'on a un petit problème de financement parce que les producteurs pensaient peut-être pas le bon moment de faire un.
Ah, c'est vrai qu'il y a un background qui est un peu difficile en ce moment.
Sur l'épidémie, oui.
Ça a échappé à personne.
Oui, oui. Et un autre projet de série sur Manon Dessources et Jean de Florette.
Merci beaucoup pour ces infos. Merci Marjorie Adelson.
Merci.
Culture Média continue, c'est la dernière ligne droite. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Bondel.
En compagnie de Nicolas Pagnol, il édite, il surveille, il magnifie l'œuvre de son grand-père Marcel Pagnol. Il y a cette BD qui vient de sortir aux éditions Grand Angle, ça s'appelle La prière aux étoiles. C'est d'après l'œuvre de Pagnol. C'est la première partie, est-il indiqué sur la pochette de l'album. Mais c'était une trilogie dans l'esprit de Marcel Pagnol. Vous allez en faire combien de parties ? Deux, trois ?
On en fera que deux. En faire que deux.
Deux parties. Je l'ai dit, à cette mise en abîme, le personnage de Pierre, le compositeur incompris qui rêve de mieux, c'est Marcel Pagnol qui estime n'avoir pas été jugé à sa juste valeur. Et vous-même, est-ce que vous estimez, je sais que la réponse est non, que l'œuvre que Pagnol a la gloire posthume qu'il mérite ?
Auprès des lecteurs, oui. Auprès d'une certaine intelligentsia germano-pratine, non. Forcément non, il arrive à l'époque, quand il commence sa carrière au théâtre, en plein mouvement surréaliste, et on est bien loin de là, et du coup il va tout de suite être catalogué à l'arrière-garde, ce qui n'en est rien. Mais effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'œuvre de Marcel Pagnol, notamment sur ses manuscrits que la famille a donné à la BNF.
Ouais.
Donc les chercheurs vont pouvoir vraiment travailler sur les manuscrits, et faire une vraie étude.
Il y a un signe, c'est qu'il n'a toujours pas été édité dans la Pléiade, alors qu'on voit dans la Pléiade des auteurs beaucoup moins importants que Marcel Pagnol.
Oui, mais je crois que la question ne se pose pas pour Gallimard de savoir si Marcel Pagnol mériterait artistiquement d'être à la Pléiade ou pas. Je pense qu'il s'agit plus de questions économiques, tout simplement.
Parce qu'il est édité aux éditions de Fallois.
Tout
donc ce n'est pas Gallimard, donc c'est la raison qui fait que, selon vous.
Je pense. Moi, j'ai eu rendez-vous chez Gallimard. Il n'en a jamais été question. Voilà.
Ben non, mais quand vous leur posez la question, ils vous disent quoi ? Ils vous disent non, c'est pas assez intéressant ou non, c'est pas assez rentable.
Ils veulent bien le mettre en poste jeunesse, mais c'est pas assez rentable pour la Pléiade.
Vous dites que votre grand-père a été en quelque sorte victime de son succès parce qu'à l'époque, il gagnait beaucoup d'argent. C'était une industrie presque.
Bien sûr que c'était une industrie, mais il n'a pas fait de l'argent pour faire de l'argent. Il a fait de l'argent pour être libre, pour faire le cinéma qu'il rêvait de faire. C'est pour ça que son cinéma est radicalement différent du cinéma de l'époque. Bon, ça lui a valu beaucoup de critiques aussi d'avoir fait de l'argent parce que vraisemblablement, on lui reprochait de ne pas pouvoir se faire de l'argent sur son dos. Il a toujours été indépendant. Quand il a fait du cinéma, il était son propre producteur. Quand il a été écrivain, il a été son propre éditeur. Donc oui, ça n'a pas beaucoup plu.
L'avenir, quelles œuvres littéraires de lui vous aimeriez voir adaptées en film parmi celles évidemment qui n'ont pas encore été adaptées ?
Topaz. Topaz, qui est une satire politique, c'est une pièce,
ouais.
Oui, bien sûr, qui démonte en fait les mécanismes de la corruption politique et qui nous montre que les politiques ne sont pas plus intelligents que les autres, c'est juste qu'ils s'entraident. C'est une pièce qui avait fait un grand scandale à l'époque. Et j'aimerais beaucoup la voir remonter aujourd'hui.
Et alors, parce qu'en préparant cet entretien, je l'ai découvert, j'ignorais l'existence de ce texte. Les Marchands de gloire, c'est quoi ?
Ah, c'est une pièce écrite à quatre mains avec Paul Nivois, qui est dans la veine de Topaz. C'est en fait, il nous y parle des marchands de canons, des profiteurs de guerre pendant la Première Guerre mondiale, qui sont, encore des politiques. Ses œuvres de jeunesse sont très revendicatrices à ce sujet. Et donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui meurt au front de manière héroïque et son père est bombardé, président de l'association des héros de guerre. Et puis il commence une grande carrière politique et puis le fils revient parce qu'il n'est pas mort, il était interné dans un hôpital psychiatrique. Et au bout du bout, le père et tous ses amis décident de cacher le fils, de l'envoyer dans les colonies pour qu'ils puissent continuer leur ascension.
Je relève votre formule, il nous y parle, vous parlez comme un académicien qui était votre grand-père.
Non, je ne pense pas.
C'est la première fois qu'on vous dit ça ?
Non, oui, c'est la première fois. Non, je parle français.
Vous étiez bon en classe ? Je veux dire les choses différemment. Non. Comment c'est d'étudier Marcel Pagnol en classe quand on est soi-même Pagnol ?
C'est une purge. C'est une purge parce que, bien sûr, on vous fait faire des dictées sur la gloire de mon père ou le château de ma mère. Et quand vous faites 20 fautes, ce qui était mon cas, vous avez la double punition. Premièrement, d'être mauvais en orthographe et en plus, de salir le nom de votre grand-père. Comment osez-vous, monsieur Pagnol, faire 20 fautes sur une dictée de votre grand-père ? C'est un scandale. Oui, bon, enfin bon, si j'avais pu en faire zéro, j'en aurais fait zéro.
Ouais. Ils parlaient comme ça, les instituteurs, à l'époque ?
Bien sûr.
C'est incroyable. Mais c'était dans quelles années ? C'était pas, on raconte pas les années 40, 50, hein ?
Non, on parle des années 60. 70-80.
Non, mais là, on se croirait dans un film de votre grand-père.
Oui, mais j'étais dans le privé, c'est peut-être pour ça.
Ah, d'accord. Alors, je dois dire quand même que votre grand-père, vous ne l'avez pas connu. C'est-à-dire, il est mort quand vous aviez un an.
C'est ça.
Vous êtes le fils de Marcel Pagnol et de la comédienne Jacqueline Bouvier. Son actrice dans 6 films. Vous n'avez pas de souvenirs de votre grand-père. Mais quels souvenirs vous gardez de votre grand-mère ?
Mais souvenirs formidables. Elle nous a quittés il y a 4 ans maintenant. J'habitais ces 4 dernières années, je les ai passées chez elle pour la rassurer, pour être auprès d'elle. Je garde le souvenir d'une femme forte, d'une femme qui pouvait paraître dure, mais qui en fait était juste, d'une femme libre et d'une fidélité totale à ses amis, à sa famille. C'est quelqu'un que j'admire plus
profondément. On va changer de sujet parce que je sens que vous êtes ému. Et je voulais juste dire si vous avez plein de projets encore qui vont arriver.
Oui.
Vous reste 30 secondes pour les dire.
Oh, j'ai beaucoup de projets. je refais le livret de la Bastide Neuve, l'asile des vacances de Marcel. Je vais refaire la Bastide Neuve aussi. On a le projet d'un grand musée dans la ville de Halo, dans une ancienne usine électrique, grâce au maire Lionel de Cala. Qu'est-ce que j'ai comme projet encore ? Beaucoup de bandes dessinées.
Il y en a 17 sorties. Il en reste combien à sortir ?
Oh, une trentaine.
Incroyable.
Une trentaine.
Et ça marche. Si on sort des BD, c'est que ça marche. Donc les jeunes vont vers Pagnol, sans savoir qui il était, et trouvent ces histoires actuelles.
C'est aussi un renversement de la proposition d'achat. C'est-à-dire, généralement, c'est les mômes qui disent « je veux ci, je veux ça ». Puis là, c'est les parents qui disent, ou les grands-parents, « bon, t'auras ce que tu veux, mais aussi t'auras ça, il faut que tu le lises ».
Voilà. Et je dis aux parents, c'est absolument passionnant pour avoir lu celle-ci. C'était la première que je lisais, et je ne regrette pas du tout. Merci beaucoup, Nicolas Pagnol. Je rappelle donc cette BD tirée d'un film disparu, détruit volontairement par votre grand-père pour qu'il échappe aux Allemands, La prière aux étoiles. C'est aux éditions Grand Angle. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On va parler de la 30e édition de la nuit du Ramadan sur France 2. Nous serons avec sa présentatrice Mayam Sora et la responsable des émissions religieuses de la chaîne. C'est Laurence Godon. Et puis le groupe L'Impératrice. On va parler de leur nouvel album. Tout de suite après le flash, c'est Anne Roumanoff. Ça fait du bien, ça s'appelle comme ça. Je vous dis à demain. Merci encore Nicolas Pagnol.
Merci Philippe.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.